La déformation par les vinitaires et les trinitaires de la première théologie de la divinité. Étude numéro 127b. Introduction. Certains apologistes binitaires et trinitaires utilisent incorrectement les premiers écrits de l'Église pour affirmer que la première Église était binitaire ou trinitaire. De telles opinions sont connues et admises comme étant incorrectes par des érudits responsables. Pourtant, ces apologistes persistent avec l'invention. La raison en est que les croyances binitaires et trinitaires dépendent des conciles du IVe siècle pour leur validité. Les christianismes romains et orthodoxes peuvent se reposer confortablement sur cette connaissance, mais le protestantisme ne peut pas. Plus important encore, Herbert Armstrong a introduit une opinion voilée et fausse de Christ qui est passée d'une reconnaissance unitaire d'Eloha dans les cours d'études bibliques à une position qui était en fait logiquement d'ithéiste. En évitant l'accusation d'hérésie d'ithéiste, ces idolâtres font l'erreur de glisser dans le binitarisme. Ils sont alors forcés de compter sur la pseudo-érudition trinitaire pour défendre leurs arguments. Voyons tout d'abord la première théologie. Dans l'étude de « La première théologie de la divinité », étude numéro 127, que vous pouvez consulter en ligne sur le site ccg.org/French, on y a montré ce que la première position était au cours des deux premiers siècles et comment elle est devenue modaliste et puis ensuite binitaire à partir du début du IVe siècle et du Concile de Nicée, et puis finalement trinitaire à partir de l'introduction au Concile de Constantinople en l'année 381 et à la ratification au Concile de Chalcédoine après l'année 451. La première utilisation du mot trias n'est pas apparue avant l'année 180 de l'ère courante dans l'œuvre de Théophile d'Antioche, telle que mentionnée dans l'étude 127. La position à Rome à partir du milieu du IIe siècle est obtenue à partir de Justin Martyr. Celle de Smyrne est obtenue à partir d'Irénée, de Lyon, écrivant à la fin du IIe siècle, vers l'année 195, et aussi à partir d'Hippolyte. Les écrits de Polycarpe sont trop peu nombreux pour traiter de la position de façon concluante, mais ceux des deux disciples formés à Smyrne sont décisifs. En citant à partir de la partie 1 de l'étude 127, nous voyons la position de Justin. Justin, citation. Notre enseignant de ces choses est Jésus-Christ, qui est aussi né à cette fin, et qui a été crucifié sous Ponce Pilate, le procureur de la Judée, au temps de César Tibère, et que nous lui rendions raisonnablement un culte, ayant appris qu'il est le Fils du vrai Dieu lui-même, et lui accordions la seconde place, et à l'esprit prophétique la troisième, nous le prouverons. Car il proclame que notre folie consiste en ceci, que nous donnions à un homme crucifié une seconde place au Dieu immuable et éternel, le Créateur de tout. Car il ne discerne pas le mystère qui s'y trouve, auquel, comme nous vous le démontrons clairement, nous vous prions d'en tenir compte. Citation de l'ouvrage Apologie, tome 1, section 13 de l'ouvrage de Justin. Nous poursuivons la citation. « Et le premier pouvoir après Dieu le Père est Seigneur de tous, et la parole, en grec logos, qui est aussi le Fils. » Nous poursuivons la citation dans l'ouvrage de Justin. « Il est incorrect en conséquence de comprendre que l'Esprit et la puissance de Dieu sont autre chose que la parole, Logos, qui est aussi le premier-né de Dieu. » Fin de citation, tirée de l'ouvrage de Justin, Apologie, livre 1, section 33. Ainsi, Justin conçoit le Logos comme une émanation de Dieu, qui est capable d'individualisation pour embrasser le concept de l'esprit en général et de Christ en particulier. Il dit cependant, citation, « Mais autant lui, Dieu, que le Fils, qui est venu de lui, et nous a enseigné ces choses, et la multitude des autres bons anges qui suivent et sont faits à son image, et l'esprit prophétique, les connaissant en raison et en vérité, et déclarant sans réticence à quiconque souhaite apprendre, comme on nous a enseigné. » Fin de citation. Donc, les anges étaient aussi vus comme étant conformes à l'image de Dieu. Justin identifie clairement le Christ comme étant l'ange de la présence au Sinaï, qui a donné la loi à Moïse. Selon les chapitres 13, chapitres 16 et 61, Justin ne préconisait pas l'adoration des anges. Voir aussi la note 3 à l'ouvrage « Les Pères d'Avant-Nicée », volume 1, page 164. Le terme « adoration » est dérivé de ce terme à Apocalypse 3, verset 9, basé sur proskuneo, à savoir proskunezozin, signifiant « ils se prosterneront devant les élus de l'église de Philadelphie ». Ainsi, le terme ne signifie pas d'adorer les anges ou Christ, mais de montrer l'obéissance par la prosternation du corps, autrement dit, rendre hommage. Ainsi, les entités en question reçoivent l'hommage dans leur capacité en tant que partie de l'armée loyale de Dieu. L'ange a dit à Jean de s'abstenir de le faire, mais plutôt d'adorer Dieu. Voir Apocalypse 22, verset 9. Ainsi, les élus adorent seulement Dieu. Justin se réfère au fait de rendre hommage, et non pas d'adorer. La position préconisée par Justin était la position de l'Église romaine, à peu près vers l'année 155 de l'ère courante. Il soutenait la croyance claire que Christ et toute l'armée étaient des produits de la création du Père. Tous ont été faits de la même façon et de la même forme, comme l'a été Christ. C'est le message clair de la Bible que nous discuterons ultérieurement. L'erreur de l'adoration de Christ, qui semble s'être infiltrée à Rome, a été trouvée dans l'église à Colosse. Citant de l'étude 127, nous lisons « Cette erreur s'est étendue en partie à l'église à Colosse. L'adoration de l'église chrétienne se limite à Dieu et n'inclut même pas Christ, à part l'hommage dû en tant que contrôleur et maître. Mais de manière importante, Justin étend le corps pour inclure l'armée loyale. Ceci est par conséquent une meilleure approximation de la doctrine biblique de l'esprit, qui est capable d'individualisation pour embrasser les élus qui deviendront théoi, comme Christ est un des théoi, subalterne à son théos, qui est Dieu le Père. Cependant, bibliquement, il est le deuxième plus haut théos en tant que souverain sacrificateur. Justin a été apparemment parmi les premiers à introduire le culte du dimanche. Voir l'ouvrage « From Sabbath to Sunday » du sabbat au dimanche de Bakioki, page 223 et suivant. Cependant, il a toujours été un subordinationniste. Il avait des croyances antinomianistes particulières quant au sabbat et son application aux juifs comme étant une punition particulière. Ses opinions n'étaient pas soutenues par les chrétiens à l'époque et Bakioki affirme que l'église chrétienne n'a jamais accepté une thèse aussi fausse. Voir l'ouvrage de Bakioki, page 225. Le fait d'affirmer que Dieu a établi la circoncision et le sabbat seulement à cause de la méchanceté des Juifs, comme une marque de différenciation pour les mettre à part des autres nations et de nous les chrétiens, pour que les Juifs exclusivement puissent souffrir l'adversité, rend Dieu coupable de grossières acceptions de personnes. Cela est contraire au sentiment total des confessions de la Réforme. Malgré cette erreur, son opinion de la divinité est toujours subordinationniste. Cependant, il présente un raisonnement émanationniste qui semble accompagner cette approche antinomianiste. Comme nous l'avons vu, Justin niait cependant toujours la doctrine de l'âme et du ciel, comme étant non chrétienne et provenant des cultes du mystère. Le terme que Justin a appliqué à Christ en tant que l'ange de Dieu qui a donné la loi à Moïse était la position de la Bible, basée sur 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Voir aussi le texte « L'ange de YHVH » Étude numéro 24, que vous pouvez consulter en ligne sur le site ccg.org/french. Irénée maintenait aussi cette position subordinationniste, identificatrice du Christ et de Dieu. Les Elohim qui étaient fils étaient appelés Elohim, mais le Père seul était le seul vrai Dieu, le Ha-Elohim. L'article défini a été utilisé à propos de lui seul, malgré les prétentions des catholiques romains concernant 1 Jean 5, verset 20. Nous voyons l'utilisation de l'expression « seul vrai Dieu » en distinction de Christ dans les écrits de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Irénée dit à propos de Dieu, nous lisons, « Car il a commandé, et ils ont été créés. Il a parlé, et ils ont été faits. À qui donc a-t-il commandé ?» La parole, sans doute, par laquelle, dit-il, le ciel a été établi, et toutes ses puissances par le souffle de sa bouche. Citation du psaume 33, verset 6. Dans son ouvrage « Contre les hérésies », volume 3, section 8, paragraphe 3, Irénée maintenait que, citation, « il est clairement prouvé que ni les prophètes, ni les apôtres n'ont jamais vraiment appelé un autre Dieu ou Seigneur, sauf le vrai et seul Dieu. Mais les choses établies sont distinctes de celui qui les a établies, et ce qui a été fait de celui qui les a faites, car il est lui-même non créé, étant son commencement, ni fin, et manquant de rien. Il est suffisant de lui-même, et bien plus, il accorde à tous les autres, cette chose même, à savoir l'existence, mais les choses qui ont été faites par lui. Voir le même ouvrage d'Irénée, Contre les hérésies, livre 3. Irénée a étendu ici la capacité de devenir Dieu, en grec Théos, ou en hébreu Elohim, ou Logos, par opposition aux autres choses établies. Il avait déjà établi la position de Dieu et du Fils et de ceux de l'adoption en tant que Théoi ou Elohim, et de tous les fils de Dieu dans le chapitre 6 du livre 3. Nous lisons. Donc, ni le Seigneur, ni l'Esprit-Saint, ni les apôtres n'ont jamais appelé Dieu, certainement et absolument, celui qui n'était pas Dieu, à moins qu'il ne soit vraiment Dieu. Il n'aurait pas non plus appelé personne en sa propre personne Seigneur, sauf Dieu le Père qui règne sur tout, et son Fils qui a reçu la domination de son Père sur toute la création, comme ce passage le dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Citation de Psaume 110, verset 1. Ici, l'Écriture représente le Père s'adressant au Fils, celui qui lui a donné l'héritage des païens et lui a soumis tous ses ennemis. Irénée a continué en déclarant que l'Esprit-Saint a appelé Seigneur autant le Père que le Fils ici. Irénée a affirmé que c'était Christ qui a parlé avec Abraham avant la destruction de Sodome et qui avait reçu le pouvoir de Dieu de juger les Sodomites pour leur méchanceté. Et ceci, texte suivant, nous lisons, déclare vraiment la même vérité, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Le sceptre de ton royaume est un sceptre juste. Tu as aimé la justice et détesté l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint. Citation de Psaume 45, verset 6. Car l'Esprit les désigne tous les deux par le nom de Dieu, Théos ou Elohim, autant celui qui est oint comme fils que celui qui oint, c'est-à-dire le Père. Et de nouveau, Dieu se tenait dans la congrégation des dieux et juge parmi les dieux. Citation de Psaume 82, verset 1. Il se réfère ici au Père et au Fils et à ceux qui ont reçu l'adoption, mais ceux-ci sont l'Église, car elle est la synagogue de Dieu, que Dieu, c'est-à-dire le Fils lui-même, a réuni par celui-même de qui il parle de nouveau, le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé et a appelé la terre. Citation de Psaume 50, verset 1. Qui est signifié par Dieu? Celui de qui il a dit, Dieu viendra manifestement notre Dieu, et il ne gardera pas le silence. Citation de Psaume 50, verset 3. C'est-à-dire le Fils qui a été manifesté aux hommes, et qui a dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Citation d'Ésaïe, chapitre 65, verset 1. Mais de quel Dieu parle-t-il? De ceux à qui il dit, j'ai dit vous êtes des dieux, et tous les fils du Très-Haut. Citation de Psaume 82, verset 6. À ceux-là, sans doute, qui ont reçu la grâce de l'adoption, par laquelle nous crions Abba, Père. Citation de Romains 8, verset 15. Fin de la citation de l'ouvrage Against Heresy, contre les hérésies, livre 3, chapitre 6 de l'ouvrage Les Pères d'avant Nicée, volume 1, pages 418 à 419. L'Église a clairement bien compris l'utilisation des termes dans les psaumes, et que cette utilisation du terme Dieu par rapport à Christ était celui d'une entité subalterne. Ces deux psaumes mentionnés ici sont examinés dans les études le psaume 45, étude Moreau 177, et le psaume 110, étude Moreau 178, que vous pouvez consulter gratuitement sur le site ccg.org/french. En continuant l'étude 127, nous voyons que il n'y a aucun doute qu'Irénée avait une opinion subordinationniste de la divinité et qu'il étendait le terme « Dieu » entre parenthèses comme « Théoi » ou « Elohim » pour inclure le Fils et ceux de l'adoption aussi. Il semble indiquer ici que Christ a rassemblé les élus, alors que nous savons d'après les Écritures que c'est Dieu qui donne les élus à Christ afin qu'ils soient rassemblés. Voir l'Évangile de Jean chapitre 17 verset 11 à 12, voir l'Épître aux Hébreux chapitre 2 verset 13, chapitre 9 verset 15. L'utilisation exclusive du terme aux élus physiques peut être incorrecte, étant donné l'application d'Irénée ici. L'armée loyale est aussi incluse dans le conseil selon la compréhension d'Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. De ce fait, l'armée loyale est aussi l'Ecclésia de Dieu. Il n'y a aucun doute que le terme Elohim ou Théoi a été vu comme s'étendant à l'Église, et que c'était la compréhension de l'Église du 1er siècle, autant de Jean que de Polycarpe qui a enseigné à Irénée, que de l'Église du 2e siècle et des siècles suivants. Cela a toujours été compris, historiquement, comme étant le conseil des Elohim, qui sont les fils de Dieu. Irénée s'arrête brusquement dans la citation qui déclare clairement qu'il a été oint avec l'huile de joie au-dessus de ses compagnons, en indiquant de ce fait la même origine et la même égalité avec l'armée. Irénée insistait sur le fait cependant du statut des élus physiques et il n'était pas concerné dans le texte avec l'armée. Nous discuterons de cet aspect plus tard. Nous voyons que l'Église à Rome et en France au IIe siècle avait une opinion subordinationniste de Christ. L'Église comprenait bien clairement, à partir des textes du Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, que les psaumes chapitre 45 et chapitre 110 se référaient à Christ. Elle comprenait aussi que Dieu, en tant que le Père de tous, était le Dieu de Jésus-Christ. Il s'étendait en tant qu'Eloha, ou seul vrai Dieu, pour devenir Ha-Elohim, comme le centre étendu d'être Elohim, ou Fils de Dieu. La combinaison du concept grec de Gnosis a été introduite dans les écrits de Clément d'Alexandrie. À partir de l'étude 127, nous lisons « Clément d'Alexandrie dit de la même manière, citation, « car le Fils est la puissance de Dieu, étant la plus ancienne parole du Père, avant la production de toutes choses et sa sagesse. Il est alors correctement appelé l'enseignant des êtres formés par lui. Maintenant, l'énergie de l'Éternel est une référence au Tout-Puissant, et le Fils est pour ainsi dire une énergie du Père. Clément a cependant compris que le destin des élus était de devenir des dieux. Il a dit cela en parlant du gnosis, qu'il considérait comme pouvant être atteint par l'homme, dans une certaine mesure, pendant son séjour sur la terre. Nous lisons dans l'ouvrage de Clément. Mais il atteint son apogée après la mort du corps, quand l'âme du gnostikos est autorisée à retourner à sa place originale, où après être devenu un dieu, il peut se réjouir dans un repos complet et perpétuel, dans la contemplation face à face de la plus haute divinité, avec les autres théoi. Fin de citation de l'ouvrage Clément d'Alexandrie, A Study in Christian Platonism and Gnosticism, de S.R.C. Lila, Oxford, 1971, page 142. Nous voyons donc ici la combinaison du grec gnosis avec la première doctrine, que nous deviendrons des théoi ou Elohim. Il n'y avait aucune suggestion que Christ ou les autres théoi étaient égaux à cette plus haute divinité. Cette croyance est importante, car le mauvais usage des premiers écrits porte sur cette application du terme Elohim, ou en grec théoi. Dans ses écrits contre Noétus, Hippolyte, l'associé d'Irénée, qui est devenu l'évêque à la ville du port de Rome, et qui a réprimandé les évêques romains et l'Église du IIIe siècle pour leur apostasie, a été très clair quant au fait que leur point de vue était simple. Dieu, au commencement, n'avait rien de contemporain avec lui. Maintenant, quelle partie du terme « contemporain » ne comprennent pas ces binitaires d'ithéistes et trinitaires? Définition « contemporain » A. Adjectif. D'origine contemporaine. Également âgé. Existant en même temps. De durée coïncidente. Définition B. Substantif. Du même âge ou position. Une personne ou une chose appartenant à la même période. Quand les œuvres des pères d'Avonicée ont été traduites, le sens du texte était clair, et aucun érudit ne prétendait que le texte dit autrement. Ni Christ, ni tout autre être, n'était contemporain ou existait avec Dieu dès le commencement. Aucun. Il était seul, seul en lui-même. Hippolyte dit, et de façon très importante, citation, « Maintenant, personne n'est ignorant que Noétus affirme que le Fils et le Père sont les mêmes, mais il fait sa déclaration ainsi. En effet, alors, le Père n'était pas né, il était encore justement appelé le Père. Et quand il lui a plu de se générer, ayant été engendré, il est lui-même devenu son propre fils, pas celui d'un autre. Car de cette manière, il pense établir la souveraineté de Dieu, alléguant que le Père et le Fils, ainsi appelés, sont une seule et même substance, non pas un individu produit à partir d'un autre différent, mais lui-même de lui-même, et qu'il est appelé par le nom de Père et de Fils, selon la vicissitude du temps. Entre parenthèses, Hippolyte répète cette opinion dans son résumé, livre 10. Nous poursuivons la citation dans l'ouvrage d'Hippolytus. Le premier et seul, entre parenthèses unique Dieu, créateur et seigneur de tous, n'avait rien de contemporain qui existait avec lui, mais il était unique, seul en lui-même. Par un exercice de sa volonté, il a créé les choses qui sont, qui n'avaient antérieurement aucune existence, sauf qu'il a voulu les créer. Car il est entièrement conscient de ce qui est sur le point d'avoir lieu, puisque la préscience est aussi présente en lui. Fin de citation d'Hippolytus, voir le même ouvrage, page 150. Donc, cette déité solitaire et suprême, par un exercice de réflexion, a amené à l'existence le Logos d'abord, non pas la parole dans le sens d'être articulée par la voix, mais comme un raisonnement de l'univers conçu et résidant dans l'esprit divin. Lui seul, il a produit de choses qui existaient, car le Père lui-même constituait l'existence, et l'être né de lui était la cause de toutes les choses qui sont produites. Le Logos était dans le Père même, portant la volonté de son géniteur, en étant familier avec l'esprit du Père. Car simultanément avec sa procession de son géniteur, attendu qu'il est le premier-né de ce géniteur, il a comme une voix en lui-même les idées conçues par le Père. Et c'est ainsi que quand le Père a commandé au monde de venir à l'existence, le Logos a complété, un à un, chaque objet de la création, faisant ainsi plaisir à Dieu. Christ, veut-il dire, la sagesse et la puissance de Dieu le Père a construit sa maison. Fin de citation, fragment sur Proverbe 9, verset 1, voir l'ouvrage des Pères d'Avant-Nicée, volume 5, page 175. C'est avec cet auteur que nous avons d'abord développé l'erreur que Christ était la seule émanation du Père, et que les autres éléments de l'armée céleste sont des créations du Fils, et qu'ils ne partagent pas de ce fait la nature divine, comme le fait le Fils. C'est l'erreur de base sur laquelle la doctrine de la Trinité a commencé à être construite. Comme il a été démontré à partir du contexte biblique, les Elohim sont une armée multiple de laquelle l'agneau est le souverain sacrificateur. Mais il est l'un d'entre eux, comme un camarade ou un compagnon, bien que toute la structure hiérarchique ait été créée par lui ou en lui et pour lui. Voir Colossiens 1, verset 15. Les saints deviennent également les compagnons de Christ, d'après Hébreux chapitre 3, verset 14, et par conséquent, les frères de l'armée, voir Apocalypse 12, verset 10, et des co-héritiers avec Christ, voir Romains 8, verset 17. Les cieux, toutes les choses mentionnées comme ayant été créées par le Fils, sont les structures spirituelles et physiques. C'est l'intention des références à l'évangile de Jean chapitre 1, verset 3, en rapport à la création, et à 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, en rapport à l'univers, en grec « tampanta », et aux humains. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 alloue spécifiquement la création de toutes les choses visibles et invisibles, la création des trônes ou des seigneuries ou des dominations ou des autorités à travers lui et pour lui ne peut se référer au conseil des Elohim. La création par Christ des autorités, en grec « kuriotetes », n'a pas rapport aux entités. Si c'était le cas, cela impliquerait alors la création de Dieu, qui est le kurios suprême. Nous avons donc affaire au pouvoir et non pas aux êtres, à savoir les trônes et la structure des cieux et leur gouvernement. Éphésiens chapitre 1 verset 22 et chapitre 3 verset 9 montrent que c'était Dieu qui a créé toutes les choses et les a placées sous les pieds de Christ et l'a fait le chef de toutes les choses pour l'Église. Cela a été fait afin que les chefs et les autorités dans les cieux comprennent à travers l'Église la sagesse diversifiée de Dieu. Ces choses ont été faites pour démontrer que Dieu a grandement élevé Christ, voir Philippiens 2, chapitre 10, ce que, logiquement, il ne pouvait pas avoir toujours été. Cependant, Dieu a utilisé Christ comme le leader et l'instrument primaire de la création des âges, voir Hébreux 11, verset 3. Le monde a été créé à travers Christ, voir Hébreux 1, verset 2, qui reflète la gloire de Dieu et porte l'empreinte même de sa nature. Voir Hébreux 1, verset 3. Hébreux 2, verset 10 se réfère à toutes les choses, en grec « tapanta », qui constituent l'univers. C'est avec l'hérésie de Noétus que nous voyons que le binitarisme, trinitarisme, provenant de l'adoration d'Attis, Adonis, Osiris, a émergé dans le christianisme. Hippolyte a essayé de distinguer le Christ des autres de l'armée des Elohim, mais il était absolument clair que Dieu et Christ n'ont jamais été coéternels, ni étaient-ils égaux non plus. Sa démonstration était d'expliquer le concept de prototokos, tel qu'utilisé à propos de Christ. Le Christ était une création du Père par la génération de son esprit. La Bible est claire que tous les fils de Dieu étaient des produits du Père, et ils sont tous d'une même origine. Les fils de Dieu étaient le conseil des Elohim. Tous comprenaient ce fait, depuis les prophètes jusqu'aux apôtres et les anciens de la foi. Le théologien jésuite Léopold Sabourin, S.J., a expliqué ce concept dans l'œuvre « The Psalms, Their Origin and Meaning ». C'est un fait que les érudits trinitaires eux-mêmes admettent que le Dieu tripartite a été superposé sur les concepts unitaires des Saintes Écritures. Ce processus a été expliqué dans l'annexe des dépositions de la foi chrétienne, étude numéro A1, que vous pouvez consulter gratuitement sur le site ccg.org/french, les principaux théologiens catholiques tels que C.M. Lacunia et d'autres expliquent comment le processus est arrivé et elle est citée dans l'annexe. Ce n'est pas comme si nous ne savions pas ce qu'est le processus. Quiconque a lu la Bible et a étudié les récits des pères des sept conciles comprennent le comment et le pourquoi de ce qui s'est produit. Les catholiques romains prétendent simplement qu'ils avaient le droit de le faire. De la même manière, ils revendiquent le droit de changer le sabbat et les nouvelles lunes et les fêtes. L'Église n'a jamais accepté cette affirmation. Pour un autre examen des erreurs théologiques récentes dans les Églises de Dieu et d'ailleurs, voir aussi l'étude du binitarisme et du trinitarisme, étude numéro 76, que vous pouvez consulter sur le site ccg.org/french. Voyons maintenant le fondement de la déformation. Comment alors les binitaires et les trinitaires justifient-ils leurs prétentions concernant la coéternité et la coégalité de Dieu et de Christ, quand le rapport historique des écrits est si clair? La réponse est qu'ils déforment les écrits des premiers pères et leur utilisation du terme Dieu. Ils extraient le terme en référence au Christ, dans ses concepts subordinationnistes du psaume 45, versets 6 à 7, et de Hébreux, chapitre 1, versets 8 à 9, et essaient de l'utiliser pour induire leurs erreurs non scripturales et pour tromper ceux qui ne sont pas instruits dans l'histoire du sujet. Dans le mot Dieu, nous voyons les significations de l'antique teuton comme, citation, ce qui est invoqué ou ce qui est adoré par le sacrifice. Définition, Dieu dans le sens chrétien et monothéiste, l'unique objet suprême de l'adoration, le créateur et le maître de l'univers. Il est correct que le terme Elohim a été utilisé à propos de Christ et d'autres qui avaient aussi un Elohim qui était le Dieu de Christ. Ce terme est utilisé et compris dans l'hébreu et le grec et était écrit dans le Nouveau Testament de façon à transmettre ces mêmes distinctions hébraïques. Il s'ensuit, comme la nuit suit le jour, que vous ne pouvez pas être coégaux et coéternels à votre propre Dieu, à moins que ce ne soit une idole. David pouvait l'appeler Seigneur, bien qu'il soit son propre descendant, précisément parce qu'il avait une préexistence. Consultez l'étude de la préexistence de Jésus-Christ, étude numéro 243, sur le site ccg.org. Cependant, Christ n'était pas coéternel avec son propre Dieu. Il n'a jamais été compris comme étant coéternel ou égal à Dieu dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. C'est une invention d'affirmer qu'il dit ou indique ce concept. Tous les théologiens et érudits principaux de la Bible admettent que la Bible est unitaire, y compris Calvin et Arnac. Le théologien Brunner admet ce fait. Ainsi, sur quel texte ces auteurs font-ils leurs prétentions? Un texte que plusieurs personnes utilisent est une œuvre faussement attribuée à Clément, qui suit Linus et Clétus à Rome. Le problème est que nous ne sommes même pas sûrs que la première épître attribuée à Clément soit l'originale mentionnée par Eusèbe. Elle n'a pas émergé jusqu'à ce qu'elle ait été trouvée avec le manuscrit Codex A en l'année 1628. Elle contient des récits fabuleux acceptés par l'auteur. Elle traite de la sédition. La soi-disant deuxième épître est une écriture pseudépigraphique connue, rédigée bien plus tard par un auteur sous le nom de Clément pour soutenir des vues postérieures. Quiconque a lu les œuvres « Les Pères d'Avant-Nicée » de Clément connaîtrait les faits en question. Premièrement, Clément n'est certainement pas binitaire. Il s'agit en fait d'une structure unitaire. Certains, comme Holmes et les crédules qui veulent l'accepter, soutiennent la fausse et risible affirmation que le soi-disant second Clément est le plus vieux sermon chrétien complet qui a survécu. Aucun érudit de religion ne serait trompé par ce non-sens. Les binitaires citent Holmes tout en sachant qu'il se réfère à une œuvre pseudépigraphique. Elle ne provient certainement pas du 1er siècle ou du début du 2e siècle, même si certains tentent de la faire précéder à Justin Martyr. La plupart la placent après Justin et essaient de la placer juste avant Athénagoras. Cette fausse épître est ensuite citée en s'appuyant sur des textes vagues pour insinuer le binitarisme. L'utilisation du terme « Dieu » est insinuée comme étant la preuve du binitarisme d'avant Nicée. Les termes par rapport à Dieu et à Christ sont les mêmes dans ce texte, tel que c'est appliqué dans le psaume 45, versets 6 à 7 et Hébreux, chapitre 1, versets 8 à 9. Par exemple, l'utilisation suivante des termes du texte. Citation. Frères, nous devrions penser ainsi de Jésus-Christ aussi bien que de Dieu, comme le juge des vivants et des morts, entre parenthèses citation un sermon antique chrétien, soi-disant de Clément, chapitre 1, verset 1. Ainsi donc, frères, si nous faisons la volonté de Dieu notre Père, entre parenthèses, citation du sermon antichrétien de Clément 14, verset 1, que vous pouvez voir dans l'ouvrage de Holmes, MW, The Apostolic Fathers, Greek Text and English Translation, deuxième édition, Baker Books, 2004, page 121. Le fait de citer ce texte pour soutenir que l'Église primitive était bénitaire est une érudition trompeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Robert M. Grant écrit, entre parenthèses, voir le dictionnaire The Anchor Bible Dictionary, volume 1, page 1061, nous lisons « Une ancienne épître chrétienne transmise avec un Clément dans le manuscrit biblique Codex Alexandrinus, entre parenthèses fin 4e siècle, et le manuscrit Codex de Jérusalem, entre parenthèses l'année 1056, postérieur, qui inclut le Didache, ainsi que dans la version syriaque. Elle n'a pas été écrite par l'auteur ou les auteurs de 1 Clément, et en effet ce n'est pas une lettre, mais un sermon sur la maîtrise de soi, le repentir et le jugement. Le sermon commence brusquement. Frères, nous devons penser à Jésus-Christ comme à Dieu, comme au juge des vivants et des morts, et nous ne devons pas penser peu de notre salut. Le prédicateur dit à ses frères et sœurs qu'il est en train de leur lire une requête ou un plaidoyer, du grec enthesis, pour prêter attention à ce qui est écrit, c'est-à-dire aux Écritures saintes qu'il cite fréquemment, entre parenthèses avec des citations à partir de la parole prophétique, autrement inconnue, et quelque chose comme l'évangile apocryphe des Égyptiens. Il se réfère lui-même aux livres, entre parenthèses c'est-à-dire l'Ancien Testament, et aux apôtres, en tant qu'autorité. Ainsi, le soi-disant de Clément, trouvé un millénaire après, fait clairement une distinction entre Dieu et le Christ, et attribue le jugement à Christ, ce qui est une simple déclaration biblique. Ce n'est pas un texte binitaire, et il est daté vers l'année 130-160 de l'ère courante, au plus tôt, et probablement postérieur, entre parenthèses 160-170 de l'ère courante. Il ne contredit certainement pas les déclarations claires des autres auteurs, à Rome et à Lyon, et à Ostia Attica. Le texte peut être lu à l'adresse internet suivante, http://www.earlychristianwritings.com/declement.html. On a fait appel à Polycarpe à Smyrne. Sa théologie a été enseignée à Irénée et à Hippolyte, et elle est clairement unitaire. L'épître de Polycarpe est aussi clairement unitaire. Dans son chapitre 12, qui était une exhortation aux diverses grâces, il dit, citation, « Mais que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même qui est le Fils de Dieu et notre souverain sacrificateur éternel, vous exhorte dans la foi et la vérité, et en toute humilité, douceur, patience, endurance, tolérance et pureté, et qu'il vous accorde une part parmi ses saints, et à nous avec vous, et à tous ceux qui sont sous le ciel, qui croiront en notre Seigneur et en son Père, qu'il a ressuscité des morts. » Entre parenthèses, comparez Galates 1, verset 1, comparez aussi l'ouvrage des Pères d'Avant-Nicée, volume 1, aux pages 35 à 36. Comment quiconque pourrait-il interpréter les écrits de Polycarpe comme étant binitaires, particulièrement lorsque les écrits incontestés et la théologie établie par ses disciples sont clairement unitaires? L'épître a été écrite en grec, mais préservée en latin. Les chapitres 10 à 13 sont conservés seulement dans la version latine. Le chapitre 13 a été joint en tant qu'interpolation. La traduction par Roberts et Donaldson suit le latin, préservant les trois derniers chapitres en entier. Lightfoot est un trinitaire, et il a omis le terme « fils de » devant le terme « Dieu » au chapitre 12, et a continué à utiliser le terme « Dieu » avec « Seigneur » et « Dieu » devant les mots « Jésus-Christ » dans la traduction du texte en latin « Dominum nostrum et Deum Iesum Christum ». Nous n'avons aucune idée quand ce texte en latin a été écrit. Lightfoot traduit le texte comme suit. Citation. Maintenant que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et le souverain sacrificateur éternel lui-même, le Dieu Jésus-Christ, vous exhorte dans la foi et la vérité, et en toute douceur, et en tout évitement de colère, et dans la patience, et dans la souffrance, et dans l'endurance, et dans la pureté, et qu'il vous accorde une portion parmi ses saints, et nous avec vous, et à tous ceux qui sont sous le ciel, qui croiront en notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, et en son Père. Traduction libre de l'ouvrage de Lightfoot, The Epistle of Polycarp to the Philippians in Apostolic Fathers, chapitre 12, verset 6, verset 7. Il est cependant tout à fait logique que le terme « Deum » est cohérent avec l'utilisation de théos dans Jean, et aussi des termes dans les écrits de Justin, d'Irénée et d'Hippolyte qui se réfèrent à Christ comme étant théos et deum dans les références à Psaume 45, versets 6 à 7 et d'Hébreu, chapitre 1, versets 8 à 9. Ce n'est certainement pas une preuve du binitarisme. Cela est la théologie unitaire subordinationniste parfaitement correcte et historique, telle que démontrée par les disciples de Polycarpe qui ont été formés à Smyrne et reflète sa théologie. Le terme « fils de Dieu » est utilisé à propos de Jésus-Christ. Polycarpe a suivi les enseignements de Jean, était en désaccord avec Rome dans les disputes quarto-décimanes. Entre parenthèses, voir l'étude des disputes quarto-décimanes, étude numéro 277, sur le site ccg.org. Dans l'épître de Polycarpe aux Philippiens, Polycarpe se réfère à Ignace et il est assez sûr qu'il était conscient de son martyre. Ignace est aussi revendiqué comme étant binitaire par des apologistes trinitaires. Le problème avec Ignace est très clair et simple. Il y a 15 écrits existants attribués à Ignace. Il y a 1 à la Vierge Marie, 2 à l'apôtre Jean, 1 à Marie de Cassobellae, 1 aux Tarsiens, 1 aux Antochiens, 1 à Héro, diacre d'Antioche, 1 aux Philippiens, 1 aux Éphésiens, 1 aux Magnésiens, 1 aux Traliens, 1 aux Romains, 1 aux Philadelphiens, 1 aux Smyrniens et 1 à Polycarpe. Parmi ceux-ci, les 8 premières épîtres sont universellement reconnues comme étant des contrefaçons d'un âge postérieur et reflètent cette théologie. Elles ont probablement été écrites pour établir les erreurs postérieures ou les hérésies. Les 7 autres sont controversées. Il y a 7 épîtres qui sont reconnues par Eusèbe. De ces textes, il y a 2 textes grecs, un plus court et l'autre une version plus longue. Il est universellement accepté par les érudits que l'un de ces textes est un texte corrompu, utilisé pour établir une théologie postérieure. On pense que la version la plus courte est plus probablement l'originale. Cependant, personne n'est sûr que l'une ou l'autre soit authentique, et toutes les deux pourraient bien être corrompues. En fait, en l'année 1666, la démonstration la plus savante soutenait que toutes les deux étaient corrompues a été publiée par Daillé ou Dallaeus. L'évêque Pearson a écrit un traité en l'année 1672 défendant la version courte et cela a été accepté jusqu'à présent par les trinitaires. Si nous supposons que les 7 écrits postérieurs dans la version courte sont authentiques, ce qui n'est aucunement certain, nous devons encore les comparer à la formulation dans Psaume 45 verset 6 à 7 et Hébreux 1 verset 8 à 9 et telle que soutenue par les épîtres véritables connues de Justin, d'Irénée et de Hippolyte. En examinant la version courte, nous voyons la même théologie subordinationniste ressortir. Notez que le texte se réfère à le Dieu et notre Dieu, à savoir l'Élohim subalterne, et ha l'Élohim, ou le Dieu, des textes. Citation. Car notre Dieu Jésus-Christ a été conçu par Marie en accord avec le plan de Dieu, de la postérité de David, c'est vrai, mais aussi de l'Esprit-Saint. Il est né et a été baptisé, afin que par sa soumission, il puisse purifier l'eau. Citation de Ignace, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 18, verset 2, de l'ouvrage Les Pères d'Avant-Nicée, volume 1, page 57. Le texte du chapitre 19 a été traduit comme Dieu lui-même manifesté en forme humaine, pour le renouvellement à la vie éternelle. Ceci est une erreur théologique du trinitarisme postérieur, et constitue un motif, tel que cité par les premiers théologiens, comme Daillé, pour rejeter les deux textes. Certains, tels que Holmes, ont modifié la citation, à Dieu est apparu en forme humaine, et les binitaires citent Holmes. Le texte plus long dit « Dieu étant manifesté comme un homme, et un homme manifestant la puissance comme Dieu ». Citation « Dieu est apparu en forme humaine pour apporter la nouveauté de la vie éternelle ». Entre parenthèses, Ignace, Épître aux Éphésiens, chapitre 19, verset 3, selon Holmes, les Pères apostoliques, texte grec et traduction anglaise, Baker Books, 2004, page 149. Le texte court est seulement incohérent. S'il est considéré comme étant le seul vrai Dieu lui-même, s'étant manifesté, ce qu'il n'a simplement pas fait. C'est ce type d'incohérence des textes qui a conduit au plaidoyer en faveur du rejet des deux. On fait appel à Ignace pour un support, mais son œuvre est véritablement subordinationniste si nous appliquons le test du psaume 45 verset 6 à 7 et de Hébreux chapitre 1 verset 8 à 9 dans son application subordinationniste. La combinaison est utilisée dans l'introduction des termes Dieu le Père et Jésus-Christ notre Dieu, qui est clairement unitaire subordinationniste, en accord avec l'énoncé de David dans le psaume 45, verset 6 et suivant. L'appel dans l'épître aux Smyrniens ne fait pas les revendications de l'Épître aux Éphésiens, mais le chapitre 1 commence par le texte, citation, « Je glorifie Dieu, même Jésus-Christ, qui vous a donné une telle sagesse. » Mais continue à expliquer la position subordinationniste de Christ en tant que le Fils de Dieu, selon la volonté et la puissance de Dieu. Voir l'ouvrage des Pères d'Avant-Nicée, volume 1, page 86. La position est clairement subordinationniste unitaire biblique. L'utilisation des termes « théos » et « Elohim » dans la structure biblique est mal comprise, et la fausse affirmation est alors renforcée que les unitaires n'appliquent jamais le terme « Dieu » au Fils de Dieu, et pourtant Satan peut être appelé le Dieu de ce monde, voir 2 Corinthiens 4, verset 4. Psaume 45, verset 6 à 7 et Hébreux 1, verset 8 à 9 appliquent le terme « Elohim » et « théos » aux deux entités et font de l'un le Dieu de l'autre et identifient Jésus-Christ comme étant le Dieu subalterne. Voyons maintenant l'école d'Alexandrie et le modalisme. Vers l'année 177, nous commençons à voir l'école d'Alexandrie se développer. Elle a commencé avec les écrits d'Athénagoras, qui a établi la base philosophique du christianisme pour l'établissement du modalisme. Il a fait une grave erreur théologique et a introduit la distinction de la compréhension du rapport entre Christ et les autres fils de Dieu de l'armée. Il était un Athénien et un philosophe, et son adresse à l'empereur Marcus Aurelius et à son fils Commodus débute l'œuvre plaidoyer pour les chrétiens. Il s'adresse à eux comme étant des conquérants de l'Arménie et de Sarmatia, et plus que tout, des philosophes. Donc, il établit les bases de la montée de la philosophie grecque dans le christianisme et ouvre la voie à Clément d'Alexandrie, dont les erreurs sont discutées dans la partie 1 de l'étude de 127. Il a commencé son plaidoyer à l'empereur et à Commodus, en traitant des fausses affirmations à leur encontre, et par la réfutation de l'athéisme. Dans le chapitre 4, il établit l'affirmation qu'il n'y a seulement qu'un seul Dieu. Il affirme que la doctrine chrétienne est monothéiste. Citation, « Mais puisque notre doctrine ne reconnaît qu'un Dieu, le créateur de cet univers, qui est lui-même incréé, entre parenthèses dans ce qui est, ne vient pas à l'existence, mais ce qui n'existe pas, mais a créé toute chose à travers le Logos qui est de lui, nous sommes traités de façon peu raisonnable dans les deux cas, du fait que nous sommes diffamés et persécutés. » Fin de citation. Comparez l'ouvrage Les Pères d'Avant-Nicée, volume 2, page 131. Par conséquent, il commence le problème complexe d'affirmer le seul vrai Dieu qui est incréé et le Logos qui a été généré de lui en tant qu'un produit de sa volonté. Il commence alors à discuter avec les philosophes et leurs opinions concernant Dieu. L'affirmation est faite qu'il y a seulement un seul vrai Dieu qui existait et était incréé, et le Logos a été généré de lui. Nous avons vu que Noétus a été condamné par les premiers apologistes pour avoir déclaré que Dieu est apparu de lui-même et est devenu son propre fils. Cet appel établit la même erreur qui mène au modalisme, ensuite au binitarisme et puis au trinitarisme. Dans le chapitre 7, il mentionne le concept de psyché ou de l'âme, qui est un concept de Socrate et développé dans le platonisme, voire l'étude « La doctrine socratique de l'âme » est une neurobessis sur le site ccg.org/french. Ces erreurs ont commencé à mettre en place la fondation de l'hérésie modaliste, qui apparaît dans sa plénitude au chapitre 10, lorsque les trinitaires l'ont tenu pour avoir déclaré dans le titre du chapitre, titre qu'ils ont écrit, et non pas lui, que le seul Dieu est adoré par les chrétiens en tant que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Citation. Ce seul Dieu est incréé, éternel, invisible, infranchissable, incompréhensible, illimité, qui est appréhendé seulement par la compréhension et la raison, qui est entouré par la lumière et la beauté et l'esprit, et la puissance inexprimable par laquelle l'univers a été créé à travers son Logos, et mis en ordre et maintenu en existence. J'ai déjà suffisamment démontré, je dis son Logos, car nous reconnaissons aussi un Fils de Dieu. Ne laissez quiconque penser qu'il est ridicule que Dieu est un Fils. Il est le premier produit du Père, non pas comme étant amené à l'existence, car à partir du commencement, Dieu qui est l'Esprit éternel, le « nous », avait le Logos en lui-même, étant de toute éternité l'instinct avec Logos, en grec « logoikos ». Mais dans la mesure où il est devenu la puissance énergisante de toutes les choses matérielles qui reposent comme une nature sans attributs et une terre inactive, les particules les plus grandes étant mélangées avec les plus petites. L'esprit prophétique est aussi d'accord avec nos déclarations. « Le Seigneur, dit-il, m'a fait le début de ses voies vers ses œuvres. » Citation de Proverbe 8, verset 22. L'Esprit Saint lui-même aussi, qui opère dans les prophètes, nous affirmons être une émanation de Dieu, qui coule de lui et revient de nouveau comme un rayon du soleil. Qui donc ne sera pas stupéfait d'entendre des hommes qui parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, et qui déclarent leur puissance dans l'union et leur distinction dans l'ordre appelé des athées? Ni n'est limité à ces points notre enseignement dans ce qui touche à la nature divine. Mais nous reconnaissons aussi une multitude d'anges et de ministres que Dieu le Créateur et l'Architecte du monde a distribués et nommés à leurs nombreux postes par son Logos pour s'occuper eux-mêmes des éléments et des cieux, du monde et les choses dedans et leurs ordonnances gracieuses. Fin de citation. Les erreurs qu'il a faites étaient basées sur les prémices de la philosophie grecque. Celles-ci étaient 1. L'existence de l'âme immortelle, 2. L'incapacité pour un subalterne de réconcilier par un sacrifice vicié, 3. Les dieux et les hommes de ne pas interagir. Il y a seulement philia et eros, l'amour fraternel et érotique. Le mot agapé est un mot grec d'emprunt de l'hébreu provenant du Cantique des Cantiques dans la Septante. Christ donc devait faire partie de Dieu et n'est pas comme les autres fils de Dieu. Pourtant, il devait clairement admettre leur position dans la structure de Dieu. Ceci n'était pas la structure contenue même dans le document R, qui formait les premières croyances connues à Rome au IIe siècle. Voir l'étude des doctrines originales de la foi chrétienne, étude numéro 88, sur le site ccg.org. Le document R et les écrits de Tertullien sont unitaires. Ils sont contenus dans l'étude 88 citée auparavant. Ils détaillent les croyances de l'Église jusqu'à la fin du IIe siècle. Voyons maintenant Alexandrie et l'émergence du binitarisme. C'est avec le système à partir d'Alexandrie que nous voyons la première référence surgir en l'année 180 de l'ère courante, avec l'introduction du terme « trias » à Antioche. Athénagoras a établi la division philosophique entre Christ et les autres fils de Dieu et a commencé la marche inexorable vers l'adoption de l'adoration binitaire trouvée dans les adeptes des cultes d'Attis, d'Adonis et d'Osiris et des mystères qui ont été établis à Nicée en l'année 325 de l'ère courante. C'est une forme de l'hérésie de Noétus dénoncée par les disciples formés à Smyrne. Les canons de Nicée ont été détruits en tant qu'hérésie, et ce système a été enlevé dès l'année 327 de l'ère courante, avec la restauration des unitaires subordinationnistes, faussement appelés ariens ou usés bien, plus tard, par les trinitaires. La restauration du binitarisme et des motifs du trinitarisme est venue avec la nomination comme empereur de Théodosius à l'Est par Gratien, et son appui des athanasiens en l'année 381 à Constantinople, et à partir de l'année 451 au concile de Chalcédoine. Les erreurs qui ont développé les entières hérésies postérieures sur la nature de Dieu étaient basées sur la notion qu'il y avait seulement un fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, et qu'il était distinct d'une façon ou d'une autre du reste de l'armée angélique, bien que la Bible dit dans Malachie et dans l'Épître aux Hébreux que nous avons tous un même Père, et que la création est d'une seule origine. La Bible montre cette notion comme étant complètement fausse. Le livre de Job se réfère maintes fois à la multiplicité des fils de Dieu, comme de leurs étoiles du matin dirigeantes qui étaient multiples. Il y est clairement déclaré que Satan était l'un d'eux, voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, et Job 38, verset 4 à 7. Le livre de la Genèse utilise le terme Elohim pour plusieurs entités. Il utilise aussi le terme Yahovah, au moins pour quatre entités, en même temps, voir le thème abordé dans l'étude de l'ange de YHVH, étude numéro 24, et dans l'étude Abraham et Sodome, étude numéro 91. Ainsi, nous voyons que les hérésies apparaissent à partir de la division de l'Église. Rome voulait absorber les païens, donc les évêques y ont adopté les doctrines de l'adoration du dieu Attis à Rome et des cultes du mystère. Anicète a introduit la tradition de Easter Pâques à Rome en l'année 155 de l'ère courante, ce qui a presque causé la division dans l'Église en conflit contre Polycarpe. Victor a insisté en l'année 192 en conflit contre Polycrate et a finalement causé la division de l'Église. On explique la question dans l'étude des disputes quartodécimanes, étude numéro 277, que vous pouvez consulter sur le site ccg.org. Des trinitaires plaide avec les compagnons quartodécimants d'Irénée, qui était un évêque à Sardes et qui a été un martyr. Affirmer qu'il était évêque à Smyrne et par conséquent qu'il reflète la doctrine à Smyrne est faux. Il est aussi mentionné dans les fragments comme étant l'évêque d'Attica et d'Ithica. Ces fragments sont ainsi indépendants l'un de l'autre dans la composition originale. Polycrate dans sa lettre à Victor, vers l'année 194, se réfère à lui comme étant un quarto décima. La quasi-totalité de ses écrits sont perdus. Cependant, une liste de la majorité d'entre eux est conservée dans Eusèbe, ainsi qu'un extrait. L'Encyclopédie catholique lui attribue la nature duelle de Christ, en citant le labyrinthe de Hippolyte comme preuve. L'œuvre préservée est une apologie pour la foi chrétienne livrée à Marcus Aurelius vers l'année 170 de la courante. C'est fort possible qu'Athénagoras ait écrit son apologie environ 7 ans après ceci, pour insérer un changement structurel au binitarisme dans l'esprit de l'empereur et de son fils. Cette apologie ne doit pas être confondue avec l'apologie syriaque attribuée à Mélito, et apparemment délivrée en présence de César Antoninus. C'est une apologie syriaque attribuée à Mélito. Elle a été publiée en syriaque et en anglais par Cureton d'un musée britannique. On croit que Lightfoot doutait de l'authenticité de la soi-disant référence au décret d'Antoninus. Le fragment censé être adressé à Antoninus se lit en réalité Antonius. Le fragment 1 est cependant concerné par l'adoration du Père. Citation. « Mais quant à vos enfants, parlez-leur ainsi. Il y a Dieu le Père de tous, qui n'est jamais né, ni n'a jamais été créé, et par la volonté de qui toutes les choses subsistent. Il a aussi créé les luminaires, afin que ses œuvres puissent se voir, et il se cache lui-même dans sa puissance de toutes ses œuvres. » Car ce n'est pas permis à aucun être changeant de voir celui qui ne change jamais. Mais comme ceux qui sont attentifs à ses paroles et sont admis dans cette alliance qui est immuable, ils voient Dieu autant qu'il est possible de le voir. Fin de citation. Ce texte est clairement une théologie unitaire biblique. Mélito a été faussement représenté par les écrivains postérieurs dans un appel à ses soi-disant points de vue. Origène se réfère à lui comme étant un anthropomorphiste. Mais A.A. McErlin soutient que les fragments en syriaque montrent le contraire. Les 4 fragments syriaques sont souvent attribués à Mélito, mais souvent aussi à Alexandre d'Alexandrie. En d'autres termes, ils ne savent pas lequel est véritable et lequel ne l'est pas. Beaucoup de faux écrits lui ont été attribués, certains provenant de la fin du Moyen-Âge. Une lecture attentive du plus grand fragment de ses écrits révèle qu'il est unitaire, subordinationniste. Les autres fragments syriaques se réfèrent à lui comme étant l'évêque de Sardes, voire le fragment 2, un simple évêque, voire le fragment 4, l'évêque d'Attica, voire le fragment 5, et ensuite l'évêque d'Ithica, voire le fragment 6. Il n'y a jamais eu d'explication suffisante de ces aspects. C'est peu probable qu'il se réfère à lui-même comme l'évêque de 3 différentes régions dans un même document. Donc, ils doivent être les œuvres d'auteurs distincts, ou du moins de scribes postérieurs. Son discours sur la croix, voire le fragment 3, attribué, est encore plus étrange que la théologie Attis. Citation, « Il s'est formé pour lui-même un corps semblable à nous, pourtant revêtu de la nature de son père, marchant sur la terre, pourtant remplissant le ciel, apparaissant comme un enfant, pourtant ne renonçant pas à l'éternité de sa nature, étant investi avec un corps, pourtant non entouré de la simplicité pure de sa divinité, étant estimé pauvre, pourtant non privé de sa richesse, ayant besoin de nourriture, puisqu'il était un homme, cependant ne cessant pas de nourrir le monde entier, puisqu'il est Dieu. Il se tenait devant Pilate, mais en même temps, il était assis avec son père. » Fin de citation. Les commentaires sont contre les sentiments des évangiles et les paroles de Christ, particulièrement sur le pieux et dans le Nouveau Testament, tant de Paul que de Jean. Il contredit les sentiments dans le fragment 2, aussi attribué à lui. Un fragment attribué à un Mélito dit vraiment en effet, citation, « Celui qui a porté la terre a été suspendu à un arbre. Le Seigneur en a fait l'objet de l'ignominie avec le corps nu. Dieu a mis à mort le roi d'Israël, tué. » Fin de citation. Ce texte est une référence à des concepts des Écritures saintes de psaume 45 et psaume 110. Et de Hébreu. Cela provient d'un Mélito, évêque d'Ithica. Cela pourrait être un différent Mélito. Les fragments postérieurs ont été préservés par Eusèbe dans le discours à Marcus, Aurelius, Antoninus. Le fragment pris de la chronique d'Alexandrie dit « Nous ne sommes pas de ceux qui rendent hommage aux pierres, mais au seul Dieu, qui est avant tous et au-dessus de tous, et de plus. » Nous sommes des adorateurs de son Christ, qui est véritablement Dieu la parole, existant avant tous les temps. Fin de citation. Cependant, ceux-ci et d'autres ont été exposés comme étant un produit d'Alexandre d'Alexandrie et reflètent des doctrines d'Alexandrie postérieures menant à Nicée. À partir de ce texte, les binitaires soutiennent que Christ était coéternel. Pourtant, les autres fragments reconnus de Milito montrent que cette expression se réfère à la création physique, parce qu'ils reconnaissent tous seulement le seul vrai Dieu qui est le Père. Les fragments soutiennent que Dieu le Père est le seul vrai Dieu et le Créateur de tout. Le fragment 9, la clé, énumère toutes les façons que Christ est perçu comme étant décrit dans les Écritures saintes. La compréhension du texte de Daniel 7, verset 9, verset 13, verset 22 est incorrecte. Cependant, il est clair que les textes montrent que Christ était l'être de l'Ancien Testament qui est apparu aux patriarches, à Moïse et aux prophètes. Le terme « le doigt du Seigneur » par lequel la loi a été écrite sur des tablettes était compris comme un nom de Christ, comme était le terme « les mains du Seigneur », voir Psaume 8, verset 3. Ainsi, Christ était vu comme étant la présence du Seigneur et l'être mentionné comme étant l'ange du Seigneur qui est apparu aux patriarches et a exercé la puissance de l'Esprit-Saint dans le Nouveau Testament. Il y a une référence directe au psaume 45, dans le texte, plaçant Christ comme Dieu subalterne d'Israël. Par conséquent, nous sommes de retour à la structure subordinationniste des psaumes et de Hébreux. L'adoration de Christ est aussi avancée dans ce texte. Cependant, c'est un fait connu que les églises de Dieu n'ont jamais prié à Christ ou n'ont pas adoré le Christ dans ses rites durant 2000 ans, et ne le font toujours pas dans les véritables églises de Dieu. Le terme « proskuneo » est aussi appliqué aux élus dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Le terme « Dieu la parole » est « théologou », utilisant la même structure que l'on trouve dans Jean 1, verset 18, de « monogenes théos » ou « le seul Dieu né ». Voir l'étude sur les termes « monogenes théos » dans les Écritures saintes et traditions, étude numéro B4. Il n'y a aucun doute que le vrai Mélito était Quartodécima et faisait partie de l'école de Sardes. Il n'était pas de Smyrne, bien qu'il les connaissait sans doute intimement. Polycrate dit qu'il était un Quartodécima. Les doctrines de l'école de Smyrne sont correctement exposées dans les écrits d'Irénée et d'Hippolyte. La division par Hippolyte de Christ de l'armée, quoique une erreur, ne diminue aucunement l'unitarisme subordinationniste absolu de l'école, comme nous le voyons auparavant. Les œuvres ont été produites au cours des disputes Quartodécimanes et du schisme de l'Église en raison de l'hérésie de Easter Pâques. Ainsi, ce n'est donc pas un accident que les doctrines binitaires de l'adoration d'Attis sont apparues peu de temps après le culte de Easter Pâques, en l'année 155 de la courante, à partir de Rome, et ont été introduites juste avant le schisme des Églises de Dieu et de l'Église de Rome, en l'année 192 à 194 de la courante. Easter Pâques est le nom de la déesse Ishtar, qui a aussi eu divers autres noms. Le dieu Attis a été tué un vendredi et ressuscité par la déesse le dimanche. C'est la séquence du système de Easter Pâques. Il n'a aucun lien avec Christ et la Pâques. Voyons maintenant les erreurs au IIIe siècle. À partir de la fin du IIe siècle, nous voyons la théologie de la nature de Dieu se détériorer. Nous nous sommes occupés de ces théologiens et de leurs opinions dans la partie 1. Clément à Alexandrie a continué avec les croyances d'Athénagoras et a déclaré que le Fils était une énergie du Père, de sorte que Christ est devenu une émanation du Père et la distinction d'Athénagoras a été préservée. L'erreur d'Athénagoras a été de poursuivre dans le modalisme complet à Alexandrie. Les auteurs tels que Tertullien ont développé la théorie de la nature de Dieu que nous avons traitée dans la partie 1. Il a continué le thème de l'école d'Alexandrie et a développé la théorie que l'Esprit-Saint procédait du Père à travers le Fils. Ainsi, nous pourrions considérer que le vrai binitarisme a commencé avec Tertullien, en combinant ces deux êtres comme un seul Dieu. Tertullien a écrit abondamment et ses vues montrent une divergence dans le montanisme dans ses dernières œuvres. C'est lui qui a développé l'argument que le Christ a existé avant le commencement, vu qu'il était la raison du Père, et de là existé avant le commencement. Cependant, vu que la génération de Christ en tant que prototokos est le début de la création, son argument est contraire à la raison. Il fait de Christ un attribut de Dieu. Un tel argument est ouvert à la création tout entière et défait le binitarisme. Comme nous avons noté dans la partie 1, Tertullien maintenait la position qu'avant toute chose Dieu était seul. Citation « Car avant toute chose Dieu était seul, étant en lui et pour lui ». L'univers et l'espace et toutes les choses. De plus, il était seul, parce qu'il n'y avait rien d'externe à lui, mais lui-même. Fin de citation. Il maintenait aussi, à partir de ce texte, que seulement Dieu existait dès le commencement. dans sa perpétuité continue. Ainsi, l'erreur que Christ était la raison en tant qu'une partie interne de Dieu a été introduite pour surmonter les objections du néoplatonisme. Dans la partie 1, nous avons aussi examiné les œuvres d'Origène pour établir sa position. Les tentatives trinitaires de le rendre binitaire sont tout simplement des déformations de ses écrits. Origène était clairement subordinationniste et d'affirmer le contraire serait une invention. Origène fut le successeur de Clément à l'école d'Alexandrie. Il soutenait que le Fils de Dieu était le Fils du Créateur de l'univers. Il envisageait cependant la création de l'univers selon le néoplatonisme. Dans la partie 1, nous avons discuté sa théorie des hypostases à partir de l'éternité. Cependant, il soutenait que le Père précédait théologiquement le Fils et que le Fils était un produit du Père. Cette unité n'était pas un modalisme incohérent, mais le terrain avait été préparé pour poursuivre la discussion entre Rome et Alexandrie à travers le modalisme jusqu'au binitarisme à Nicée en l'année 325 de l'ère courante. En faisant ainsi, ils ont continué à absorber des doctrines païennes des mystères. Origène est préféré par les trinitaires parce que son œuvre les accommode plus dans leurs opinions que les doctrines unitaires subordinationnistes qui sont devenues étiquetées pour les protagonistes postérieurs en tant qu'arianisme, eusébianisme et autres, après Nicée, tels que le semi-arianisme. Ces doctrines et leurs déformations sont examinées dans les études suivantes. L'arianisme et le semi-arianisme, étude numéro 167. Le socianisme, l'arianisme et l'unitarisme, étude numéro 185. Les guerres unitaires, trinitaires, étude numéro 268. Le binitarisme et trinitarisme, étude numéro 76. Le développement du modèle néoplatoniste, étude numéro 17. Les prêtres d'Attis se plaignaient au IVe siècle que l'Église chrétienne avait volé toute leur doctrine. Cela incluait l'erreur binitaire, établie plus ou moins partout dans l'Empire, à l'exception de la Grande-Bretagne, avec une normalisation de Easter Pack à Nicée. Il doit être réalisé que le binitarisme de Nicée, déclaré en l'année 325, avait été rejeté avec ses évêques dès l'année 327 de l'ère courante, et ses canons ont été détruits en tant qu'erreur. Ils ont été reconstruits plus tard à Constantinople en l'année 381 de l'ère courante. L'Empire romain et les empereurs suivants étaient des unitaires subordinationnistes, incorrectement appelés des Ariens ou eusébiens par la faction athanasienne binitaire. Alexandrie a été mise en charge du calendrier de Easter Pâques dès l'année 325 de l'ère courante et y a préservé le système de Easter Pâques. La Grande-Bretagne a continué en tant que quartodécimane jusqu'en l'année 664. Les Églises de Dieu n'ont en aucun temps soutenu cette erreur binitaire jusqu'au XXe siècle et étaient souvent incorrectement condamnées comme ariennes. Durant certains siècles, quiconque était en désaccord avec Rome était déclaré comme manichéen dualiste, peu importe ce qu'il croyait. Il fallait être un trinitaire qui observait Easter Pâques et le dimanche et qui déclarait que la terre était plate pour être orthodoxe. Maintenant, la majorité, en fait, ne comprend pas l'histoire du sujet. Ils ne le discutent pas dans certaines branches parce qu'ils sont désespérément divisés sur le sujet, variant d'unitaires radicaux qui nient la préexistence de Christ à des dithéistes, à des binitaires et à des trinitaires. Le vrai problème aujourd'hui, parmi ces groupes, provient de la mauvaise conception théologique concernant la structure et les différences entre l'unitarisme biblique et la réforme unitaire radicale qui nie la préexistence de Christ. Entre parenthèses, voir l'étude « La préexistence de Jésus-Christ » étude numéro 243. L'unitarisme radical n'a jamais été soutenu par les premières églises primitives. C'est une théologie de la réforme. C'est pour toutes les raisons citées auparavant dans la partie 1 et cette partie que le subordinationniste unitaire de la Bible est la croyance originale. Les prétentions comme celles de Larry Hurtado dans sa conclusion à la page 114 de son ouvrage « Un Dieu, un Seigneur, la première dévotion chrétienne et l'antique monothéisme juif » que la première dévotion chrétienne est binitaire dans les formes sont incorrectes. Les prémices proviennent d'une fausse conception de l'unitarisme biblique. La progression graduelle a été détaillée dans plusieurs œuvres. L'œuvre de Larry Hurtado a été commentée il y a quelques années. Il affirme correctement qu'après la dispute quartodécimane dans le catholicisme, un système binitaire s'est développé, mais ce n'était pas la doctrine de la première Église. Et cela n'a jamais été la doctrine des vrais observateurs du sabbat. La progression s'est faite à partir de la théologie unitaire subordinationniste vers une division ultérieure de l'armée telle que Christ a été élevé au-dessus des autres fils de Dieu et rendu distincte d'eux, alors que la position biblique ne soutient pas une telle affirmation. La position biblique est que les élus deviendront aussi Elohim avec Dieu comme un être étendu. Voir l'étude des élus en tant qu'Elohim, étude numéro 1. Le binitarisme et la structure subséquente du trinitarisme sont une erreur qui attaque la capacité de l'armée entière, tant spirituelle que physique, à devenir Elohim. Les écrits des théologiens de l'Église n'ont pas attesté le binitarisme avant que le système de Easter Pack n'ait envahi Rome et que les doctrines d'Attis aient commencé à y être accommodées. Le binitarisme naissant n'a pas été évident dans les écrits de l'Église avant l'année 177 de l'ère courante environ, et certainement pas avant l'année 155 de l'ère courante. Elle n'a jamais été une doctrine quarto-décimale. La position biblique, comprise également par le judaïsme et la première Église, est celle du Dieu Très-Haut, l'Élyon, ayant un Dieu subalterne d'Israël, à travers lequel il agit. L'hébreu fait de nombreuses distinctions entre ces entités, et le terme « fils de Dieu » est étendu à l'armée angélique entière. Les Juifs sont conscients de cette distinction. En lisant le nom du seul vrai Dieu, Yahovi, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069, ils lisent Elohim, et en lisant le Yahovah pour le Dieu subalterne d'Israël, voir le dictionnaire hébreu de Strong 3068, ils lisent Adonai. Ils ont changé le nom Yahovah à Adonai à 134 endroits dans le texte de l'Ancien Testament. Nous avons un rapport des changements. Ces aspects ont été couverts dans de nombreuses études. C'est une question de logique pure que tout acte de produire les fils de Dieu par Dieu en utilisant l'Esprit Saint est un acte de création spirituelle. Christ est le prototokos de cette génération en tant que l'arché de la création de Dieu. Voir les études l'arché de la création de Dieu en tant que l'alpha et l'oméga, étude numéro 229, et comment Dieu devint une famille, étude numéro 187. Les églises de Dieu observant le sabbat ont été unitaires bibliques au cours des âges et persécutées à cause de cela par les trinitaires. Elles ont été incorrectement étiquetées comme ariennes ou eusébiennes ou autres nombreux noms pour déguiser la continuité de leur doctrine. Il n'y a aucun rapport historique d'elles comme étant binitaires jusqu'au XXe siècle. Voir l'étude Le rôle du quatrième commandement dans les églises de Dieu observant le sabbat, étude numéro 170, que vous pouvez consulter sur le site ccg.org. /French. Les binitaires, à la différence des théologiens trinitaires, ne comprennent pas ou ne reconnaissent pas que l'unitarisme subordinationniste est la théologie de la Bible et de la première Église. Ils cherchent aussi à établir que le binitarisme était la théologie soutenue par le système du XXe siècle sous H.W. Armstrong, alors qu'il ne l'était pas. Ils veulent éviter la critique trinitaire plutôt que de reconnaître qu'il s'était trompé et que sa théologie était incohérente, allant de l'unitarisme subordinationniste plus correct au dithéisme. Ils l'ont littéralement transformé en ce berger idole des prophéties. La théologie des Églises de Dieu au XXe siècle était unitaire subordinationniste dans l'Église de Dieu du septième jour, dans la conférence de Caldwell aux États-Unis. Elles observaient le bon calendrier selon la conjonction comme les Églises avaient fait avant elles. Elles ont été attaquées comme étant ariennes, alors qu'elles ne l'étaient pas, selon les définitions des trinitaires, mais cela n'a pas d'importance. L'erreur du binitarisme est entrée par l'intermédiaire de la conférence de Denver aux États-Unis, où ils l'ont finalement déclaré en l'année 1995 en tant que le sabotage de la théologie des Églises de Dieu qui avait eu lieu dans la WCG, l'Église universelle de Dieu, et l'adventisme avant elle. L'adventisme a été sapé à partir de l'année 1931, après la mort d'Uriah Smith. Elle était unitaire en l'année 1931. Dès l'année 1978, elle était trinitaire. Le système WCG, l'Église universelle de Dieu, n'a pas déclaré que Christ a été généré par Dieu en tant qu'une partie de lui-même, comme Athénagoras avait suggéré, comme nous l'avons lu précédemment, et comme les partisans d'Attis croyaient. Ce système WCG, l'Église universelle de Dieu, dans ces dernières années, enseignait que Christ était un Dieu qui était éternellement avec le vrai Dieu. Ils enseignaient en utilisant incorrectement les textes de Michée et d'Ésaïe, qu'il était coéternel. Cet argument est en fait promu par les protestants trinitaires. Voir les études Michée chapitre 5 verset 2 à 3, étude numéro 121, et Ésaïe chapitre 9 verset 6, étude numéro 224. Ils ont aussi déclaré que Dieu et Christ ont eu une discussion et un a décidé de descendre et de devenir le fils de l'autre. Cette opinion d'ithéiste hérétique a été enseignée dans les dernières années de H.W. Armstrong et par l'administration initiale de Tkat Senior. En l'année 1991, elle a été publiée par le journal officiel de WCG, Good News, et enseignée dans les sermons, bien que le chapitre 8 du cours biblique par correspondance, Long Bible, mentionnait le seul vrai Dieu Eloha qui formait les Elohim, ce qui est un concept unitaire biblique pur. Les branches de la WCG se distancent aujourd'hui de cette fausse hérésie d'ithéistes en pensant que le binitarisme est une forme acceptable. Ils utilisent ensuite des arguments des protestants trinitaires, non informés et frauduleux, pour soutenir leurs croyances. Cela ressemble à la vieille expression « Dites-moi ce que vous voulez prouver et je vous dirai où trouver les faits ». Cela n'est pas de l'érudition. Fin de la lecture de l'étude « La déformation par les binitaires et les trinitaires de la première théologie de la divinité » étude numéro 127b.